Bonjour à tous. Dernière étape de notre voyage en terre émergente. Après avoir observé mardi comment les pays asiatiques cherchent à s'affranchir de leur dépendance envers la Chine et examiné hier la résilience des économies locales en Afrique, nous faisons escale en Amérique latine, un continent qui n'est pas le plus pauvre mais peut-être bien le plus injuste. Voilà ce que disait l'ancien président du Chili, Ricardo Lagos. Avec la crise du coronavirus et le ralentissement économique de la région, les inégalités ont recommencé à se creuser. Alors l'Amérique du Sud peut-elle renouer avec la croissance et la justice sociale? C'est le problème que nous allons tenter de dénouer aujourd'hui. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Nous allons sillonner l'Amérique du Sud en compagnie de Pierre Salama, économiste, professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord, en compagnie également de Vera Chiodi, maîtresse de conférences en économie à l'université Sorbonne Nouvelle et chercheuse à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. À 14h50, place à l'actualité avec le journal de l'écho de Xavier Martinet. Pierre Salama et Vera Chiodi, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors nous en parlions mardi dans cette émission. Certains experts redoutent que la crise économique soit dévastatrice pour les pays émergents. Mais à ce micro, l'économiste Jean-Joseph Boileau expliquait au contraire que cette crise allait accroître le poids des pays émergents dans l'économie mondiale. Quel est votre point de vue à ce sujet, Pierre Salama?
Je crois que mon ami Boileau se trompe. Tout simplement, c'est dommage qu'ils ne soient pas en face. Si c'est pour parler des pays asiatiques, oui, c'est exact, oui. Je crois que nul doute. Si c'est pour parler de l'Amérique latine, non, ils sont en crise, et en crise profonde économique, en crise aussi également sanitaire, très très profonde. Non, je crois que c'est une profonde erreur. Par contre, que la pandémie demain puisse être une opportunité pour sortir des problèmes structurels que connaissent la plupart des pays latino-américains, oui. J'ajoute juste une chose, c'est que la situation en Amérique latine, avant même la pandémie, était totalement différente de celle qui pouvait exister dans les pays asiatiques, largo sensu, c'est-à-dire aussi bien les tigres que les dragons, c'est-à-dire la Corée, etc., la Thaïlande, la Chine et l'Inde. C'était des situations complètement différentes, tant au niveau de la croissance qu'au niveau de l'incapacité de résoudre durablement les problèmes de pauvreté.
Mais la crise de 2008 avait tout de même été une opportunité pour les pays émergents, pour certains d'entre eux en tout cas, et cela avait permis pour eux de dépasser le poids de 50% du PIB mondial. Vera Chiodi, sur cette question.
Oui, mais je suis encore une fois d'accord avec Pierre Salama du fait que l'Amérique latine n'est pas un reflet des pays émergents. Le concept de pays émergents est très lié à la théorie de la convergence qui ne se valide pas systématiquement pour les pays latino-américains et des Caraïbes.
C'est-à-dire la théorie de la convergence.
Oui, enfin, nous avons longtemps cru qu'il n'y avait pas de convergence inconditionnelle. Ce sont des modèles qui vont prédire que les pays pauvres rattraperont les pays riches. Et c'est peut-être le cas si vous prenez des pays qui ont des politiques similaires ou un capital humain similaire. Mais dans l'ensemble, donc ça serait la convergence plutôt conditionnelle, les pays pauvres ne rattrapent pas leur retard. Donc ça, c'est un peu l'article séminal de Barro de 1991. Mais bon, après les années 90, ce modèle a changé. Donc c'est là le discours des pays émergents. Donc les pays pauvres qui vont rattraper les pays riches. Et il ne s'agit pas uniquement de l'Inde ou de la Chine, mais il ne s'agit pas non plus de l'Amérique latine. Il est souvent mis en évidence que les pays de l'Amérique latine sont tout à fait capables de connaître des périodes de croissance élevée, comme pendant la marée rose. mais ils ne parviennent pas à soutenir dans le temps l'augmentation de leur productivité. Donc ça explique qu'aucun pays d'Amérique latine n'ait à ce jour vraiment rattrapé les pays riches.
On va revenir.
En termes de PIB et par tête notamment.
On va revenir effectivement sur la marée rose, la décennie 2000 et le moment où il y a eu des gouvernements de gauche dans un certain nombre de pays d'Amérique du Sud. Mais d'abord, parlons un petit peu du bilan sanitaire, puisque la crise du coronavirus a été particulièrement meurtrière sur le continent, en incluant les Caraïbes. La région a dépassé le seuil des 400 000 morts il y a quelques jours. Il faut dire qu'il s'agit de la région en développement la plus urbanisée du monde. Et ça, évidemment, c'est particulièrement propice à la circulation du virus, Pierre Salama.
Oui, on pourrait dire que les pays d'Amérique latine sont dans le peloton de tête en termes de morts, plus exactement de morts par 100 000 habitants. Le pays le plus affecté, c'est le Pérou. Aujourd'hui, c'est 107 morts par 100 000 habitants, c'est considérable. Ensuite, vous avez évidemment le Chili, le Brésil, le Mexique, la Colombie également, et l'Argentine qui arrive là maintenant sur le tard avec un nombre incroyable de décès. Tous ces pays ont en plus de 70 morts par 100 000 habitants. Ce sont les données de la fin du mois passé. Donc c'est assez considérable. Dans ce peloton de tête, c'est-à-dire dans les 10 premiers, vous avez le pays d'Andorre, la Belgique et deux autres pays, je crois les États-Unis, le dernier je me souviens plus. Mais en gros, c'est il y a une concentration de décès malheureusement par 100 000 habitants dans les pays latino-américains. Ça c'est quand même, c'est je crois assez catastrophique.
Et parmi les facteurs d'explication, il y a le fait que 80% de la population sud-américaine vit dans les villes, Vera Chiodi.
Oui, bien sûr. L'Amérique latine, elle est fortement urbaine, et ce n'est pas uniquement les Caraïbes, mais en moyenne, la population se concentre dans 80% de la population concentrée dans des villes. Mais oui, la situation sanitaire est très grave. La région est souvent présentée comme celle qui est la plus touchée par le Covid, avec un quart des cas dans le monde. Ça, c'était des statistiques de mois d'octobre. Donc, elle est sous-représentée dans les coûts sanitaires, mais aussi économiques, parce que l'Amérique latine ne représente qu'un 9% de la population mondiale. Et le récent prix Nobel, le Programme alimentaire mondial, parle déjà d'insécurité alimentaire. Donc le nombre total de personnes ne sachant pas d'où viendra leur prochain repas dans les mois à venir s'est multiplié par 4 depuis 2019. L'aggravation des inégalités, la saison des ouragans, en particulier en Amérique centrale, active le risque de forcer les familles les plus vulnérables à migrer.
Alors comment expliquer un bilan sanitaire aussi catastrophique? Il y a la concentration en ville, le fait qu'un citadin sur 5 habiterait dans un bidonville en Amérique latine, Pierre Salama, où les conditions d'existence augmentent sensiblement le risque de contagion, et puis il y a aussi l'insuffisance des dépenses de santé.
Oui, d'abord au niveau des dépenses de santé, c'est très, très 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 divers. Ce que je veux dire par là, par exemple, vous avez des pays comme le Mexique, le Venezuela, qui en pourcentage du PIB ont les dépenses de santé les plus faibles, autour de 3% du PIB. Je vous rappelle qu'en France c'est 11,5%, en Allemagne idem. Des pays comme l'Argentine, le Brésil tournent autour de 8% du PIB. Je parle des dépenses publiques et privées en termes de santé. On a à peu près les mêmes données pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle les respirateurs, etc. Donc là, on est dans une situation quand même pour l'ensemble des pays, mais de manière assez hétérogène, une situation, disons, très très précaire en termes de santé pour la plupart des gens. À cela, il faut ajouter plusieurs choses, plusieurs facteurs. La pandémie arrive dans des économies qui étaient déjà, la plupart d'entre elles, malades. Malade de quoi? Ben tout simplement, par exemple, en Argentine, il y avait une crise très forte qui avait débuté 2 ans avant la venue de la pandémie. Au Brésil, il y avait l'incapacité de surmonter la grande crise de 2015-2016, les taux de croissance étaient très faibles. Au Mexique, vous avez une récession la première année du gouvernement de López Obrador, avant même, encore une fois, l'arrivée de la pandémie. Donc la pandémie arrive sur des pays très affaiblis et ne fait que précipiter des crises économiques. C'est pas la pandémie qui crée la crise, mais elle a précipité. C'est ça, je crois que c'est quelque chose, à mon avis, très très important. Ensuite, évidemment, vous avez cité les bidonvilles. Par exemple, pour Lima, au Pérou, c'est là qu'a qu'a démarré vraiment le fléau de mort, si je puis dire, dans des marchés populaires, etc. Parce que la situation pour les personnes les plus pauvres, leur dire comme ça, il faut se laver les mains, bon, il faut maintenir une distanciation sociale de 1 mètre, bon, tout ça c'est abstrait. Ou avoir un masque, c'est abstrait, parce que quand vous connaissez la densité au sol de la population, elle est beaucoup plus élevée qu'ailleurs, que vous savez que tous les bidonvilles n'ont pas accès à l'eau, ou difficilement accès à l'eau, ben, se laver les mains, c'est quelque chose un peu d'abstrait. Et puis surtout, au final du final, c'est la plupart des gens qui sont là sont dans l'informalité, et pour eux, ils n'ont pas tellement de choix, c'est-à-dire, du moins le choix, c'est entre Caraïbes et Silla, c'est-à-dire soit ils vont pas travailler pour pas attraper la pandémie, soit ils vont travailler au risque d'attraper. Mais dans les deux cas, ils risquent de mourir. Donc c'est une situation assez ubuesque et assez horrible. À cela, enfin, vous ajoutez autre chose, c'est qu'il y a une incohérence dans les politiques qui ont été décidées.
Alors, on va y venir, Pierre Salama, on va y venir, bien sûr, mais n'allons pas trop vite en besogne. D'abord, j'aimerais vous faire entendre des témoignages recueillis du côté de la Colombie, du Pérou et de l'Argentine.
Normalement, je travaille dans le secteur de la construction, mais à cause de la quarantaine, j'ai dû chercher d'autres sources de revenus. Là, comme vous voyez, je vends des tapis désinfectants pour les chaussures. Et il faut bien se débrouiller, il faut rapporter quelque chose à la maison.
J'ai deux enfants, ils suivent les cours virtuellement. L'école a fermé en mars et ce sera le cas jusqu'en décembre. Ici, au Pérou, c'est vraiment très difficile.
On ne fait pas 2 kilomètres et la réalité est bien différente. Là où on voit des drapeaux rouges, ce sont des gens qui appellent à l'aide.
Derrière chaque chiffon rouge, une famille en détresse.
On l'a accroché là car avec cette situation, on n'a pas de travail. Et c'est dur avec des enfants.
Ici, quand il pleut, tout se mouille à l'intérieur. Je dors là avec mon mari et mon fils. Et parfois, 7 ou 8 autres enfants dorment avec mon fils à cause du froid. On laisse d'abord manger les enfants et s'il reste de la nourriture, on mange nous, les adultes. Vivre ici est une bataille, c'est dur. Moi, je veux un toit pour mon fils.
Voilà des extraits de reportages diffusés sur France 24 et TV5 Monde. La crise du Covid a accentué les fractures sociales en Amérique du Sud, Vera Chiodi.
Oui, définitivement. Pour rebondir très rapidement, et ensuite je vais bien répondre à votre question, concernant la situation des quartiers populaires, qui est aussi liée au reportage qu'on vient d'entendre. Les quartiers populaires ont eu un confinement communautaire du fait de l'entassement, de l'accès à eau, etc. Et ça aussi, ça peut expliquer plus la propagation du virus au sein de ces quartiers populaires. Donc c'était donc le confinement communautaire qui a été une règle appliquée un petit peu partout en Amérique latine.
En quoi ça a accéléré la circulation du virus ?
Bah parce que on n'était pas enfermé chez nous, mais il y avait un grand quartier, des fois de quelques kilomètres, où on pouvait se promener et échanger. Donc du l'entassement, etc. Après, c'est vrai que par exemple le Pérou, on s'étonne beaucoup du résultat du Pérou parce que il a commencé avec un confinement dit très strict très tôt, mais les résultats aujourd'hui sont très très négatif. Après, quand on vraiment analyse ce confinement en termes de postes de travail qui étaient, si vous voulez, supprimés, on voit que 48% de la population économiquement active avait quand même le droit d'aller travailler.
Alors même que les écoles étaient fermées, et ça pose un grand problème. Les écoles au Pérou sont fermées depuis mi-mars et ne devraient pas rouvrir avant 2021. Il y a aussi une très forte crainte d'un recul de l'éducation dans le pays. Vera Chiodi.
Bien sûr. En fait, la pandémie, c'est un choc de santé qui produit un choc économique de court terme, donc choc de revenus. Pour quelqu'un, le revenu devient d'un jour à l'autre égal à zéro. Mais après, il y a les conséquences de long terme qui sont beaucoup plus inquiétantes vu le caractère plutôt plus irréversible. Et c'est sur l'accumulation de capital humain, comme vous, les reportages le disaient, l'éducation, la santé. Et pourquoi s'intéresser à ça? Parce que c'est les facteurs de transmission intergénérationnelle des inégalités. Et la fermeture des écoles est vraiment une nouveauté dans l'histoire récente. Et avant le Covid, l'Amérique latine se portait plutôt bien en ce qui concerne la mobilité sociale, si on la mesure comme l'accès à l'éducation. Mais ça révèle des inégalités impressionnantes, parce qu'un jour d'école à la maison peut être équivalente à un jour à l'école, uniquement si les parents ont une éducation élevée. Donc il y a vraiment une reproduction de ces inégalités.
On voit que ce sont des débats qui font
direct entre l'éducation.
Des débats qui font écho aussi à ceux qu'on a pu avoir en France sur ce creusement des inégalités, même si c'est la situation
Par
est évidemment
contre,
très différente.
Oui. Par contre, en Amérique latine, je pense que c'est un petit peu plus sévère. J'ai quelques statistiques. Un malade ou un mort par famille est équivalent à une ou trois semaines perdues pour l'école. Un mort au sein d'une famille peut aussi équivaloir à un décrochage scolaire. Et les conséquences négatives sur la petite enfance sont aussi très très sévères.
Les populations les plus vulnérables aujourd'hui, Pierre Salama, ce sont les travailleurs informels, souvent les femmes aussi qui font partie, enfin qui sont une grande partie de ces travailleurs informels, et aussi les populations autochtones.
Oui, non, c'est, y a aucun doute, hein, c'est aussi un peu comme en France, hein, mais en pire. C'est un peu comme en France, mais en pire. Ce sont les populations les plus vulnérables, pour les raisons qu'on a citées, à savoir parce qu'elles habitent dans des bidonvilles, qu'elles sont obligées d'aller travailler et qu'elles ne peuvent pas faire autrement parce que il y a la crise économique, il y a perte d'emploi, et que surtout dans l'informel, on est vraiment à la recherche d'emplois de survie à tout prix pour apporter de l'argent et faire survivre la famille. Il y a tous ces facteurs, mais s'ajoutent d'autres aussi facteurs. C'est que en règle générale, lorsqu'on est pauvre, on a tendance à être davantage obèse que d'autres. La malbouffe, ça s'appelle. Et la malbouffe, c'est le diabète. La malbouffe, c'est les maladies coronariennes, c'est-à-dire cardiaques, etc., etc. Et si en plus on a l'incapacité ou on n'a pas suffisamment d'argent ou que les hôpitaux publics sont insuffisamment nombreux ou fonctionnent mal ou sont loin ou sont surtout réservés à ceux qui ont un peu plus d'argent, etc. Ben, ça fait que l'accès est difficile aux hôpitaux et ça fait que effectivement les populations les plus ciblées sont les populations les plus pauvres. La pandémie de ce point de vue, à une action totalement inégale selon la stratification sociale. Ça ne veut pas dire que les riches et que les classes moyennes ne sont pas affectées, elles le sont, mais elles le sont moins.
Ces conséquences sur les populations, Pierre Salama, elles sont liées à des facteurs aussi plus macroéconomiques dont il faut qu'on discute.
Les macroéconomiques, c'est ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Dès lors que vous avez une crise, dès lors que les pays, la plupart des pays, parmi les plus grands tout au moins, étaient en crise économique ou en croissance très très faible, cela signifie que l'avenue de la pandémie va accentuer la crise, et une accentuation de la crise, en règle générale, c'est une sorte de loi économique, c'est une accentuation de la pauvreté, c'est une accentuation des inégalités.
Oui, mais aujourd'hui, les échanges commerciaux de marchandises retrouvent leur niveau d'avant la crise, et les prix des matières premières se sont maintenus, Pierre Salama.
Ça dépend des matières premières, ça dépend de beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez expliquer le fait que le Brésil, aujourd'hui, ait une crise moins forte que, par exemple, le Mexique ou surtout que l'Argentine ou que le Pérou, tout simplement parce que les matières premières qu'ils produisent sont beaucoup plus diverses et qu'ils peuvent jouer sur une panier de matières premières, certaines montent, d'autres baissent. La croissance aujourd'hui prévue pour le Brésil est moins de 6%, alors qu'elle est moins 12% pour l'Argentine et moins 10% pour le Mexique et moins 12% pour le Pérou. Donc, évidemment, ça joue dans une certaine mesure, mais c'est pas suffisant pour entraîner le reste. La construction civile, la manufacture, etc., connaissent des crises extrêmement, extrêmement profondes.
La situation reste extrêmement inquiétante, Vera Chiodi, mais la crise économique est tout de même moins forte que ce qui avait été prédit par les grandes institutions internationales.
Non, je pense pas. On prévoit presque un 10% de chute de niveau de l'activité économique pour 2020 en moyenne pour la région. Et les effets significatifs de la réduction du niveau d'activité, c'est la contraction drastique de l'emploi, des heures travaillées, des revenus, aussi concernant la pauvreté multidimensionnelle qui n'inclut pas uniquement le revenu, mais aussi les conditions de vie comme celle celles liées au logement, l'éducation, le type d'insertion professionnelle, la protection sociale. On dit que ça dépend le scénario, mais que la pandémie va inverser le processus. Il y avait une espèce de tendance à la réduction de la pauvreté multidimensionnelle, et la pandémie va inverser ce processus de réduction pour la ramener au niveau plus élevé d'il y a entre 3, il y a 3 ou 10 ans, selon différents scénarios. Donc je pense que ces inégalités dans le marché du travail, par exemple, vont rester, certainement s'aggraver. Les plus touchées, oui, ce sont les femmes qui sont une activité très liée au secteur du tourisme, les restaurants, qui sont évidemment les occupations qui ont été supprimées tout d'abord.
Et donc une vraie aussi, peur d'un retour en arrière, on vous entend. Effectivement, le FMI estime que les progrès réalisés par le Mexique au cours de la dernière décennie ont été réduits à néant par la crise actuelle. Et vous avez évoqué, Pierre Salama, le Brésil qui compte à lui seul 160 000 morts du coronavirus. Cependant, pour les partisans du président Jair Bolsonaro, que nous allons entendre, le gouvernement n'a pas pris les mauvaises décisions.
Notre président défend la démocratie, il défend le peuple brésilien. La gauche se sert du virus pour essayer de fragiliser le président et dominer à nouveau le pays.
Je suis avec Bolsonaro.
Le coronavirus, c'est une excuse utilisée par la gauche. C'est pour réussir à prendre l'argent du gouvernement. C'est pour ça que nous sommes ici. Le coronavirus, plus de la moitié des victimes, c'est un mensonge, une invention. Ils veulent des millions du gouvernement dans la lutte contre le virus et au passage, ils détruisent des entreprises. Dans ma ville, de nombreux commerces ont dû fermer à cause du confinement. Plus de 4000 personnes sont sans emploi.
Pierre Salama, à travers la crise du coronavirus, c'est une bataille politique qui se joue au Brésil.
Oui, elle est en train de se jouer. Malheureusement, avec ses conséquences en termes de morts. La réponse à cette question est un peu complexe. Bolsonaro a immédiatement nié la gravité du problème de la pandémie. Pour lui, c'était une grippette, c'était rien du tout. Il l'a complètement nié. Il y a eu des mouvements contre le port du masque, etc. Et il a milité pour que les gens aillent travailler. Et pour ce faire, il a tout simplement licencié plusieurs de ses ministres de la Santé. Donc ça vous donne un peu une idée. Et il s'est opposé aussi aux politiques économiques, un peu comme Trump, aux politiques économiques qui avaient été mises en place par des gouverneurs des différents États. Donc on a une politique de négation, si vous voulez, du problème. Et parallèlement, alors ça a reçu quand même un petit écho pour tous les gens qui désiraient travailler, parce qu'ils étaient tout simplement les plus pauvres, ils n'avaient pas de choix, il fallait essayer de trouver des sous quelque part. Et donc par conséquent, c'était pour des classes moyennes, ça pouvait apparaître comme un discours complètement incohérent, criminel, etc. Mais pour les gens les plus pauvres, ça pouvait paraître comme quelque chose, une sorte d'appui dans la recherche d'un travail coûte que coûte, un peu d'argent.
Et c'est dans ce contexte que Jair Bolsonaro, avant de vous laisser poursuivre, Pierre Salama, dans ce contexte, Jair Bolsonaro a qualifié de dictateur les gouverneurs des États brésiliens qui ont pris des mesures de confinement.
Oui,
donc on voit bien l'enjeu politique.
Oui, bien sûr. Donc si c'était que ça, ça irait encore. Mais il s'est insulté et tout ça. Mais il a fait une chose qui est assez intéressante, c'est ce qu'on appelle en portugais l'auxilio, c'est-à-dire en gros le chômage partiel, mais étendu aux catégories les plus modestes. Ça concerne 67 millions de personnes, 67,8 millions de personnes, c'est considérable. Et il leur a donné à peu près $110 pendant 3 mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin août, si je ne me trompe pas. Depuis, ça doit être $50 ou $55. Ça a l'air de rien pour quelqu'un qui touche 2-3 000 $, etc., mais pour une personne qui vivait avec des salaires de misère ou des revenus de misère, puisque l'informel n'a pas nécessairement un salaire, c'était quand même quelque chose de très très important. Ça a joué un peu la fonction comme notre chômage partiel en France. Ça, je crois que c'est la conséquence de ça, ça a été à double niveau. D'un côté, il a reçu un appui populaire. Ça, c'est très net. Et même dans les régions les plus pauvres, qui avaient voté, qui avaient pour habitude de voter Lula ou pour le PT, le Nord et le Nord-Est, on a vu monter la popularité de Bolsonaro. Et aujourd'hui, s'il y avait des élections, il les gagnerait. Ça, c'est relativement net. Second problème, c'est que ça s'est retrouvé en opposition complète avec la politique de son gouvernement, et notamment de son ministre des Finances, qui s'appelle Guedes, qui est un ultra-libéral, un ancien Chicago Boy. travail et pour lequel la seule manière de s'en sortir serait encore de privatiser et privatiser davantage.
Mais alors, comment il faut interpréter cette décision, Pierre Salama? C'était une manière pour... Comment est-ce qu'il faut interpréter cette décision, effectivement, d'accorder cette aide d'urgence aux plus démunis? C'était une façon pour Bolsonaro de rattraper ses premières décisions assez imprudentes en termes de gestion de la crise sanitaire? Parce qu'effectivement, on n'attendait pas cela d'un président qui avait pris pour ministre de l'économie quelqu'un d'aussi libéral.
Oui, non, c'est pas en opposition. Je pense que c'est pas en opposition. Il y a une certaine cohérence, il y a une négation de la pandémie, mais il y a aussi une aide en voyant la souffrance qui s'est développée, une aide aux populations les plus modestes. Et il y a une visée politique, évidemment, et elle a été payante en termes politiques puisque sa popularité a énormément augmenté depuis qu'il a versé cet auxilio, c'est-à-dire ces aides, ces transferts sociaux relativement importants. Donc il y a une forme de clientélisme, si on veut, mais qui est je crois qui pose problème à la gauche, parce que la gauche n'a pas su répondre aux deux étapes, si vous voulez, de la politique de Bolsonaro, à savoir lorsqu'il demandait aux gens d'aller travailler, et là, face à l'auxilio, c'est-à-dire ces transferts de à peu près $110 par... la gauche n'a pas su répondre,
on peut s'étonner,
d'une manière suffisamment forte.
On peut s'étonner, en effet, Vera Chiodi, qu'un président de droite, d'extrême droite, comme Jair Bolsonaro, mène cette politique d'aide aux plus démunis, alors qu'un président de gauche, du côté du Mexique, au contraire, a fait le choix de l'équilibre budgétaire.
C'est vrai. Mais juste pour faire un petit rappel de l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, on connaît le Bolsa Familia qui a été le pilier de mise en place par Lula et qui avait aussi valu la réélection de Lula. On craignait que Bolsonaro, comme leader de la extrême droite, allait supprimer tous ces transferts. Ben pas du tout. Même avant la pandémie, il a mis un 13e mois de transfert, on va dire. Donc c'était des transferts qui étaient mensuels. Bon, il a rajouté un 13e mois. Donc le Brésil est généreux depuis même avant la pandémie. Mais par exemple l'Argentine aussi, le Colombie relativement peu, rien en Mexique, je suis d'accord et je vais en revenir, mais même s'il y a ces espèces de corrections et mise en œuvre rapide d'ensemble de politiques pour soutenir l'emploi et le revenu, mais cela n'arrive pas totalement à compenser. Enfin, les études que j'ai lues, ça arrive à compenser quoi 2-3 points de pourcentage de l'augmentation de la pauvreté.
Mais comment comprendre dans le cas du Mexique, Vera Chiodi?
Le cas du Mexique, je suis assez perplexe. AMLO, il essaye de
donc Andrés Manuel López Obrador,
la présidence du Mexique, c'est la troisième fois. Exactement. Et quand il arrive, il va arrêter le programme phare, le Bolsa Familia Mexique, hein, qui s'appelait Progresa, ensuite Oportunidades, après Prospera. Il l'arrête tout à coup. Donc avec cette idée de passer de politique sociale ciblée à plutôt à celle d'un caractère universel. En fait, finalement, il s'est anticipé parce qu'aujourd'hui, en pandémie, tous les gouvernements, ils ont arrêté de cibler, mais plutôt de donner aussi, avoir que ces politiques aient un caractère beaucoup plus universel. Les raisons qu'il a soulevées pour arrêter ces programmes de transfert monétaire conditionnel, AMLO, c'était le fait qu'ils étaient liés à la Banque mondiale, que c'était une marque de néolibéralisme. Donc c'est ça un petit peu les raisons qu'il a soulevé et donc il a arrêté ses programmes tout à coup, mais ce qui est grave parce que ils se sont arrangés pour maintenir d'une autre façon les bourses scolaires pour les enfants, pour les filles surtout, mais ce qu'il a éliminé, et c'est ça ce que je trouve très grave, c'est toutes les aides à la petite enfance. Donc aujourd'hui quand on voit que le taux d'inscription dans les établissements préscolaires vont être ramenés à zéro pendant plusieurs mois dans de nombreux pays, c'est très très grave parce qu'en Amérique latine, 43% des moins de 5 ans risquent de ne pas atteindre leur plein potentiel de développement.
Donc alors c'est effectivement très inquiétant, et vous l'avez dit tous les deux, Pierre Salama, Vera Chiodi, cette crise sanitaire, économique s'est rajoutée à une crise déjà existante. Il va falloir revenir quelques décennies en arrière pour expliquer comment on en est arrivé là. On en parle dans un court instant. Algo que muchos han tratado, pero ahora solo Ecuador ha logrado. No hay manera de que puedas parar esto. Como un corrido, Ecuador ha regresado con un nuevo sonido. Empezar a hacer feria en manera de un rey. Un juego muy avanzado para un güey. Vivo mi vida y diario la reposo. Un par de morros con viejas pero no esposo. Y me puedes hallar en la calle cualquier tipo, gastando feria con mi equipo. Parece que me hice padrote, mis bolsas no estimo. Hasta cambié la moda que camino. Y piensas que soy falso, pónteme de frente. Te pongo estos puños en tus dientes y no me juzgues a mi mundo. Mi mundo es fijo, le acabo de dar feria a las jefas de mis hijos. Y aquí estoy elegible, y pa' las mujeres, primero cumplir con mis deberes. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este plan de amor. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este plan de amor. Ha pasado mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Doy gracias que todo conquistado, no miento. ¿Para qué seguir sufriendo por alguien que feliz es solamente siendo infiel? Sí, esto es solo para aquellos locos peloteros que saben cómo disfrutar de lo bueno. Chicas quieren detenerme a mí y les duele verme siendo tan feliz. Soy solo yo, nena, loco en billetes. La única manera de subir como jueces. Gracias a aquellas que saben tratar mi presencia como la de un general. Sí, el juego de la vida nunca se me olvida. Y mi estilo es puro como la bebida. Extrañarme tal vez no es cuestión de insultar. Es tristeza, vete en tu final. No
te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este plan de amor. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este plan de amor?
No hay manera d'Acuí, d'un groupe de hip-hop mexicain originaire du Michoacán. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho. Et nous poursuivons notre tour de l'Amérique latine avec les économistes Pierre Salama et Vera Chiodi. Alors faut-il s'attendre sur le continent à une décennie perdue comme la décennie 1980? Quelle était alors la situation économique de l'Amérique latine? Élément de réponse avec l'économiste chilien Gonzalo Arroyo, invité de la matinale de France Culture le 4 mai 1981.
Tous ces pays-là, en général, sont affectés par une dépendance vis-à-vis les pays riches, les pays de l'hémisphère nord et notamment des États-Unis. Se voit, par exemple, en analysant la balance des paiements. Il y a une bonne partie des résultats de l'activité économique, les profits, qui sont rapatriés aux pays riches, étant donné qu'il y a des investissements de firmes multinationales dans ces pays-là, étant donné aussi qu'il y a beaucoup de prêts. De prêts bancaires. La dette extérieure explose. Le Brésil, il a au moins 60 milliards de dollars de dette extérieure. Le Pérou, l'Argentine, le Mexique, mais ces pays, malgré son pétrole, le Chili et d'autres aussi sont tous affectés par une dette extérieure extrêmement élevée.
Pierre Salama, c'est notamment cette dette contractée en dollars qui va faire plonger les économies sud-américaines après la décision de la Fed, la banque centrale américaine, d'augmenter ses taux au début des années 80.
Oui, d'abord juste, j'ai été ému en entendant de nouveau mon ami Arroyo. Je m'excuse, ça m'a fait, je m'y attendais pas, et c'était quelqu'un un peu, enfin que j'aimais beaucoup. Non, les années 80, la fameuse décennie perdue, elle n'a rien à voir avec la crise actuelle. Ça, c'est, elle a été une décennie perdue, mais elle a été caractérisée par une hyperinflation, surtout dans certains pays comme l'Argentine ou le Brésil. On a peine à imaginer en Europe ce qu'est une hyperinflation qui a duré pendant à peu près une dizaine d'années. Donc ce sont des situations très différentes. C'est une crise de la dette, comme vous l'avez dit très bien. Il y a eu une hausse à la fois de, comment ça s'appelle, des taux d'intérêt, et aussi, à cette époque, une baisse du cours des matières premières. Si bien que ces pays se sont trouvés étranglés, des pays qu'on avait poussés, entre guillemets, qu'on avait incités à emprunter. Il fallait recycler les pétrodollars à cette époque-là, dans les années 70. ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ça n'a rien à voir.
Une situation très...
C'était une crise très très profonde.
Une situation une crise très profonde. Très différente.
Oui.
Pour vous aussi, Vera Chiodi, et à noter que dans cette période, on va assister en Amérique latine à une alternance de périodes de crise et de croissance. Et c'est peut-être aujourd'hui l'une des inquiétudes.
Certainement, il y aura peut-être un retour non graduel, mais très rapide vers les arbitrages du passé, la croissance économique associée à la détérioration des comptes externes et à cette perméabilité du contexte international, les prix des matières premières, les prix des commodities, les taux d'intérêt. Oui, certainement, certainement. Je suis totalement d'accord que le contexte est très différent à celui des années 80.
Je rappelle que cette décennie...
Les années 80, c'était...
C'est une période de progrès politique. Plusieurs pays se tournent vers la démocratie à ce moment-là. Le Brésil en 1985, le Chili en 1990, la Bolivie, l'Uruguay. Et donc on a ces progrès politiques d'une part, Vera Chiodi, et en même temps, c'est une période de forte croissance des inégalités.
Oui, certainement. En fait, la période post-90 est marquée par une hausse très importante des flux de capitaux, dont la volatilité très élevée va expliquer les mauvaises performances du continent en termes d'investissement productif et productivité de travail. Et ce qu'on a appelé la triade mortelle, donc les taux de change surévalués, les taux d'intérêt aussi élevés, les investissements publics très faibles, ont quand même contribué à cette ouverture commerciale et financière qui a ramené un petit choc de productivité et commencé à créer de fortes inégalités au sein du marché du travail. C'est ce qu'on avait appelé le skill prime, donc la prime à la formation ou à l'éducation. Donc dans le marché du travail, les inégalités s'expliquaient surtout par les inégalités de salaire, évidemment aussi de patrimoine, mais aussi inégalités de salaire avec des individus dans le marché du travail qui étaient très éduqués versus une grande majorité qui ne l'était pas.
Mais alors, ce qui est intéressant, si on poursuit un petit peu cette histoire économique de l'Amérique latine, c'est qu'on va avoir un retournement durant la décennie 2000 qui est marqué, Pierre Salama, par une croissance soutenue, et cela notamment grâce à la hausse du prix des matières premières. Et ça va profiter énormément, en particulier au Brésil et au Venezuela.
Oui, c'est pas seulement la hausse du cours des matières premières, c'est également l'augmentation très importante des volumes exportés de matières premières.
Les importations massives depuis la Chine.
Exactement, oui. C'est ça qui fait qu'effectivement est apparu ce qu'on a appelé une époque de bonanza, c'est-à-dire que l'argent facile qui arrivait de l'extérieur et qui s'est traduit pendant des années par la disparition de ce qu'on a appelé la contrainte externe. C'est en ce sens que c'est très différent des années 80. On a été dans une période d'aisance des comptes externes, tout au moins au niveau de la balance commerciale. Voilà ce que l'on peut dire très 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 rapidement. C'est une situation quand même qui a permis de faire des politiques sociales pour ceux qui désiraient faire des politiques sociales. Pour ceux qui désiraient mettre leur argent à Miami, ils l'ont mis. C'était le cas de Venezuela, et c'est ce qui explique, entre autres, l'apparition par la suite de Chavez, à savoir qu'il n'y avait pas eu avant une politique, disons, de redistribution ou des choses de ce genre, mais bien plutôt une politique de placement de l'argent aux États-Unis. Là, au Brésil et dans d'autres pays, il y a eu effectivement une politique progressiste, mais ça a été une politique qui a été favorisé par les échanges extérieurs qui étaient très très favorables, mais qui n'a pas pensé au lendemain, si je puis dire, au sens où la désindustrialisation s'est poursuivie pour les facteurs qu'a souligné tout à l'heure Vera Chiodi, à savoir un taux de change surévalué. C'est ce qu'on a, nous appelons économistes la maladie hollandaise, à savoir quand il y a... C'est une malédiction qu'il y ait trop d'argent parce que ça se traduit par une appréciation de la monnaie et donc des facilités d'importation et des difficultés d'exportation.
Mais c'est effectivement dans ce contexte que plusieurs politiques sociales sont mises en place. Vous le citiez tout à l'heure, la Bolsa Familia au Brésil, c'est cette mesure emblématique de l'ancien président Lula en 2004. Je voudrais vous faire entendre un extrait d'un reportage réalisé par France Culture dans la banlieue de Sao Paulo, c'était en 2011.
Ce que je reçois, c'est une partie du programme Bossa Família et cette partie s'appelle Bossa Escola. C'est un programme du gouvernement pour stimuler la scolarité des enfants et pour pouvoir toucher cet argent, c'est assez simple en fait. Ce qui compte, c'est de pouvoir prouver que mes enfants vont à l'école régulièrement.
Relatif. Muitos por causa da Bolsa Família e outros que vai.
Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont mis leurs enfants à l'école en pensant au fait qu'ils peuvent recevoir cet argent, la Bolsa Família. Mais je pense que la plupart des gens savent que leurs enfants aient un meilleur avenir. Il n'y a pas 36 000 solutions, c'est une bonne éducation.
Bolsa Família, todo mês recebe.
Ça fait à peu près 4 ans que je reçois le Bolsa Família. C'est vraiment une misère. Je reçois 40 reais par mois. C'est vraiment rien du tout. En fait, bon, allez, pour tout vous dire, je recevais 36 reais et on m'a augmenté à 40. C'est rien du tout. Il faut travailler. Je ne peux pas dépendre de ça. Disons que l'argent que je touche avec le Bolsa Família, ça me permet essentiellement d'acheter le gaz. La butte à gaz coûte 35 reais. Il reste 5 reais. 5 reais, c'est quoi? C'est un kilo de café, un petit peu de feijão, et puis voilà, on a vite fait le tour.
Avec la Bolsa Família, Vera Chiodi, le Brésil a suivi l'exemple du Mexique. Vera Chiodi.
Oui, comme plus d'une cent soit. Oui, vous m'entendez?
Oui, on vous entend parfaitement.
Super. Comme l'exemple du Mexique a été suivi par une soixantaine de pays dans le monde, dans la plupart des pays d'Amérique latine. D'ailleurs, ils en ont eu plusieurs, d'ailleurs à différents niveaux, niveau national, niveau provincial, ça dépend de la structure administrative de chaque pays. Et après, pour revenir un petit peu au cas du Mexique, il s'agissait d'avoir donc un transfert par enfant. D'accord. Et ce transfert était plus important pour une fille qui allait à l'école primaire, mais encore plus important si cette fille, donc cet écart entre fille et garçon, était se creusait en école secondaire. Après, ces programmes de transfert monétaire conditionnel expliquent en partie la diminution des inégalités. On vérifie déjà que les gouvernements qui ont été beaucoup plus à gauche dans cette espèce de marée rose ont diminué les inégalités encore un petit peu plus.
Autre facteur, peut-être la hausse des salaires des ouvriers peu qualifiés, Vera Chiodi. C'est l'autre grande explication.
Exactement, oui.
Expliquez-nous cela,
exactement.
Vous le voulez bien.
Cette diminution de cette prime à l'éducation et à la formation, qui était très très valorisée dans les années 90, et donc qui expliquait les inégalités au marché du travail, qui était très accentuée, qui donc cet écart après, il va diminuer dans les années 2000, les années de la marée rose. Pour revenir à la question des inégalités. Le coefficient de Gini qu'on cite relativement fréquemment, qui passe d'une moyenne de 0,55 à une moyenne de 0,49, implique que si on prend au hasard deux familles dans un pays dont le revenu moyen serait de 1000 euros, cela veut dire que l'écart entre deux familles avant était de 1100 euros et après c'était de 1000 euros. Donc la réduction de cet écart n'a été que de 100 euros, donc d'un 10% du revenu moyen.
Or cette réduction des inégalités qui effectivement est entamée dans la décennie 2000 va s'interrompre assez brutalement à partir de 2012 environ. Pierre Salama, à ce moment-là, la croissance s'estompe?
Oui, juste un point quand même, peut-être, parce qu'il y a des discussions sur cette question-là. On considère qu'il n'y a pas eu une réduction, tout au mieux une stabilisation des inégalités, y compris pendant la période dite progressiste pour la plupart des gouvernements. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire que le Gini est, disons, trop macroéconomique, trop global. En fait, les 5% les plus riches ont évalué très très mal leurs revenus. Et que c'est contrairement à ce qui a pu être dit, notamment par Dilma Rousseff, la présidente de la République, entre autres, contrairement donc à ce qui a pu être dit et repris après par la CEPAL, les 5% les plus riches se sont enrichis, y compris de manière relative. S'il y a toute une série de travaux qui ont été faits au Brésil là-dessus et sur lesquels, par la suite, le courant piquettiste, si je puis dire, s'est accroché pour précisément montrer que les inégalités n'ont pas baissé comme on aurait pu le penser. Ce qu'il y a, c'est que la pauvreté a baissé. Mais la pauvreté n'a pas baissé à cause de la bourse famille. Hein. C'est une erreur. Ceci. Il y a aussi toute une série d'études qui montrent que la bourse famille a diminué l'extrême pauvreté. C'est pas tout à fait la même chose. Et la pauvreté, elle, a baissé parce que le salaire minimum a très fortement augmenté au Brésil, et ça, je crois que ça a été le facteur qui a expliqué le fait que il y a eu moins de pauvres, 40 millions de pauvres, comme on dit, en moins, parce qu'il y a toute une série de retraites qui sont indexées sur le salaire minimum, etc., et qui ont permis précisément de diminuer les inégalités entre pour les 95% de la population récente.
Mais si les inégalités n'ont fait que se stabiliser, pardon de vous interrompre, Pierre Salama, si elles n'ont fait que se stabiliser pendant cette décennie.
C'est les travaux que l'on 2000... a, les derniers travaux qui, pour le...
En revanche, dans la décennie 2010, on a des inégalités qui recommencent à se creuser. Quels sont les facteurs qui expliquent cela et quel lien on peut faire aussi avec ces mouvements sociaux qui ont touché plusieurs pays d'Amérique latine ces dernières années et en particulier à la fin de l'année 2019, Pierre Salama?
Oui, non, c'est-à-dire, vous avez la période dite progressiste qui est 2003, 2012, 2013, ça dépend des pays, 2014, qui est une période de d'aisance, si on peut dire, dans laquelle il y a moins de pauvres, leur revenu a augmenté plus que proportionnellement, celui des plus riches aussi également, et c'est les classes moyennes qui ont, disons, relativement payé cette redistribution des revenus, si on peut s'exprimer ainsi. Ensuite, la seconde période qui s'ouvre, c'est une période un peu plus difficile. Les taux de croissance vont baisser. Le Brésil, en 2014, 2015 et 2016, va connaître une crise extrêmement profonde, la plus importante depuis les années 30. Bon, ça s'est traduit, évidemment, par une augmentation à nouveau de la pauvreté, du chômage, etc. Et les politiques qui ont été mises en place lorsque a été destitué Dilma Rousseff ne sont pas des politiques qui ont été efficaces du point de vue strictement économique. Si bien que les gains, dans une certaine mesure, qui avaient pu être obtenus sous Lula en termes de pauvreté, vont commencer à être effacé. Et avec la pandémie, là, c'est complètement effacé. On est aujourd'hui dans des situations assez horribles dont on a parlé dans la première partie. Donc, ce sont deux périodes différentes. Vous avez la période 2003-2004 jusqu'à peu près 2014. Tout ça dépend des pays, hein, évidemment. Et ensuite, c'est une période de tourmente, de nouveau, y compris pour l'Argentine. L'Argentine va, à partir de 2012-2013, va commencer à connaître une baisse de sa croissance et une crise économique à la fin du gouvernement de Macri. Donc,
et aujourd'hui, certains prédisent une reprise du continent, une reprise en L, c'est-à-dire avec une période de stagnation économique après la chute. Ça, pour vous, Vera Chiodi, c'est une hypothèse qui vous paraît plausible ?
Une récupération rapide ? Non, je ne m'attends pas à ça et surtout...
Non, une période de stagnation économique après la chute, c'est-à-dire une reprise en L.
Certainement, mais peut-être la stagnation ou encore une chute prolongée. Surtout si on s'attarde à des questions plus structurelles de l'Amérique latine. Dani Rodríguez soutient que la désindustrialisation prématurée est un problème important pour les économies émergentes, mais aussi pour les pays de l'Amérique latine qui, par essence, essaye de se tourner. Aujourd'hui, quand on entend aussi les discours des gouvernements en Amérique latine qui insistent encore sur des processus d'industrialisation, donc qui se tournent maintenant vers la fabrication industrielle à un moment donné où l'automatisation est déjà arrivée. Et cela ne va pas vraiment construire pour ces pays des classes moyennes. D'ailleurs, l'Amérique latine, elle est déjà décrite comme une région une région comme de revenus intermédiaires, mais pas de classe moyenne.
Et justement, c'est cette classe moyenne, Pierre Salama, alors est-ce qu'il faut la considérer comme telle? Mais en tout cas, c'est ce qu'on a beaucoup dit au moment des protestations politiques de la fin 2019, une classe moyenne qui aurait été désenchantée, plus éduquée aussi et plus soucieuse de protester et en même temps de ne pas retomber dans la pauvreté.
Oui, c'est une définition strictement statistique, hein, des classes moyennes qu'on a en Amérique latine. Hein. Mais enfin, peu importe. Le problème est que effectivement, il y a eu un effort en termes d'éducation qu'il faut souligner de la part du gouvernement de Lula, si on parle du Brésil, mais on a la même chose aussi également en Argentine et dans une certaine mesure au Mexique. On a eu un effort d'éducation. Donc on a eu toute une main d'œuvre plus éduquée qui est sortie, qui a cherché du travail et qui n'a pas trouvé le travail qui correspondait à ses désirs. Et donc elle a connu un processus à la fois de déqualification, c'est-à-dire que elle trouvait pas un job qui correspondait à sa qualification, et d'un autre côté, elle a été désaffiliée, c'est-à-dire c'est le début de l'ère Internet, et donc par conséquent ce qu'on appelle aujourd'hui l'ubérisation. Donc il y a une grande déception, à savoir ce qu'on leur a promis, le rêve d'atteindre la classe moyenne, c'est révélé être plus un mirage qu'autre chose. Et ça s'est manifesté, entre autres, par l'augmentation du prix des transports publics au Brésil, et ce qu'on appelait, il y a eu un mouvement Passa Libre, et qui était un mouvement de contestation de ce que la situation ne correspondait pas, celle qu'ils avaient, qu'ils connaissaient, ne correspondait pas du tout à ce que on leur avait promis.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui...
une partie de ce mouvement va évoluer, si je puis dire, une partie seulement va évoluer vers un appui pour Bolsonaro. Surtout pour les classes moyennes, disons moyennes, hautes, ce sont les classifications qu'on a là-bas en Amérique latine.
Alors justement, bon, Pierre voilà, Salama, on arrive au terme de cette émission. Ce qui peut inquiéter aujourd'hui, c'est le risque, et je voudrais vous entendre là-dessus pour conclure, c'est que en Amérique latine, la crise soit économique, mais aussi, et peut-être surtout, politique et sociale.
Oui, c'est moi, oui. Alors très très rapidement, parce que je pense que Vera a aussi beaucoup de choses à dire. Il y a un problème dont on n'a pas parlé, c'est la montée en puissance des sectes religieuses, ce qu'on appelle les évangéliques. Et celles-ci sont particulièrement fortes parmi les plus pauvres. Or, ces sectes ont un programme économique, si je puis dire, et politique, qui n'est pas, disons, pour des sociétés inclusives. Et sont un appui pour, par exemple, au Brésil, pour très nettement pour Bolsonaro. Donc là, ça constitue une sorte, je crois, de péril en la demeure, si je puis dire. Et à mon opinion, la situation politique, la traduction de toute la crise aujourd'hui en Amérique latine, la traduction politique peut nous laisser un peu pessimiste.
Et en même temps, Vera Kiodi, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive au terme de cette émission, oui. Je vous laisse finir très rapidement, Pierre Salama.
Oui.
Allez-y. Oui, Pierre Salama, très rapidement.
Je suis désolé. Oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que d'un côté, ce qui se dessine n'est pas très, très, très positif, surtout qu'il est probable qu'il y ait une seconde vague de la pandémie, en plus. Nous sommes qu'au terme de la première. C'est pas très, très positif. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut observer, c'est qu'avant la pandémie, l'Amérique latine connaissait par des mobilisations une nouvelle onde rose, si je puis dire.
Alors, justement, je voudrais finir Vera Kiodi là. Voilà, absolument, les mouvements contestataires qui ont émergé ces dernières années ont renforcé tout de même l'opposition de gauche progressiste sur le continent. Vera Kiodi, je vous laisse finir là-dessus.
Oui, mais pas uniquement de gauche. Je pense pas ça. Je pense que la récupération va être très très liée aussi au comportement de consommation, etc., des classes moyennes. Mais aujourd'hui, les classes moyennes, en termes relatifs, souffrent plus que les plus pauvres. Donc c'est ce qu'on appelle ces nouveaux pauvres, les vulnérables, qui vont tomber dans la...
Ah, je crois que nous avons perdu Vera Kiodi, qui nous parlait de la difficulté, des difficultés pour les classes moyennes, plus importantes peut-être que pour les plus pauvres. Pierre Salama, un tout dernier mot, effectivement, sur le bilan économique, le bilan social et politique de cette crise du coronavirus. Certains secteurs, évidemment, vont être très affaiblis, mais d'autres devraient être sortir renforcés par la crise.
Non, ce que je crois, et là je reviendrai un petit peu sur ce que vous avez dit au début et de ce que disait notre ami que vous avez cité, je crois que c'est aussi une opportunité, c'est un grand malheur avec des conséquences sociales assez atroces, mais il faut laisser le temps, comme on dit, et je pense que c'est une opportunité peut-être pour que soient redéfinies des mesures structurelles pour précisément lutter. contre cette crise économique, mais encore une fois une crise économique qui vient de loin, qui date de plusieurs dizaines d'années, et que soient prises en fait enfin des mesures économiques qui puissent permettre de dépasser cet état de crise. C'est dans ce sens, je suis assez optimiste. La crise des années 30 a donné naissance à un processus d'industrialisation et des nouvelles formes de politique en Amérique latine, et c'est possible que demain il y ait cela aussi en Amérique latine.
Eh bien, merci de nous donner de l'optimisme, Pierre Salama. On en a particulièrement besoin en ce moment, et un grand merci à tous les deux, Pierre Salama, Vera Chiodi, pour vos éclairages sur ces économies sud-américaines fragilisées par la crise du Covid. J'invite les auditeurs qui voudraient aller plus loin à faire un tour sur la page de notre émission sur franceculture.fr, où des liens d'articles les attendent, et aussi à aller voir du côté de l'ouvrage de Pierre Salama qui s'appelle « Contagion virale, contagion économique et risques politiques en Amérique latine » paru aux éditions du Croquant. Tout de suite, c'est l'heure du journal de l'écho.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Un journal présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
L'État préoccupé par le financement des transports en commun, la fréquentation plonge et les opérateurs réduisent de nouveau le trafic. Alors si la crise se prolonge, faudra-t-il inventer un nouveau modèle économique pour les transports publics ?
En tout cas, il pourrait y avoir un problème, avertissait fin octobre le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari, car avec la crise, les opérateurs de bus, métro, tram ou train se retrouvent étranglés entre l'effondrement de la fréquentation et donc des recettes et des coûts fixes élevés et peu variables, rappelle sagement Denis Feinselber dans Les Échos. Une urgence donc, réduire le trafic SNCF en première ligne. Dès aujourd'hui, l'entreprise retire 70% de ses TGV et pour les intercités ne laisse qu'un mince filet du une à deux liaisons par jour. Les régions qui financent les TER ralentissent aussi. Depuis lundi, deux tiers des trains circulent dans le Grand Est. Mais Jean-Baptiste Djebbari prévient, il faudra avoir une discussion, dit-il, rationnelle, froide et lucide avec les régions. Et réduire le trafic ne suffira peut-être pas à la SNCF pour tenir une longue crise, alors qu'elle est déjà sous pression financière et du gouvernement pour se restructurer. Depuis 2018, ce sont 40 milliards d'euros que l'État a injectés ou s'est engagé à le faire pour reprendre la dette ferroviaire et éponger le premier confinement de la SNCF. Et hier, le gouvernement allouait in extremis dans la loi de finances 750 millions d'euros d'avances remboursables pour les transports publics des collectivités, la moitié du manque à gagner des opérateurs régionaux.
Un sauvetage financier dont ont aussi profité les transports d'Île-de-France.
Oui, un accord similaire a été conclu fin septembre entre l'État et la région après une dure négociation, la région bloquant les paiements à la RATP et à la SNCF pour faire monter les enchères. La région a gagné, l'État compensera les 2,6 milliards d'euros de pertes du premier confinement en faisant payer 10% par les transporteurs au passage. Mais ce compromis est temporaire car selon Paris Match, la présidente de région Valérie Pécresse envisage déjà de ne payer plus que le service rendu pour ne pas se retrouver dans la même situation, dit-elle. Et la question du financement deviendra cruciale après 2021, quand il faudra commencer à rembourser les plus d'un milliard d'euros d'avance de l'État.
D'où une recherche de nouveaux modes de financement pour les transports urbains.
Oui, alors là, péage urbain ou nouvelle politique tarifaire, ce sont les pistes évoquées par la PDG de la RATP, Catherine Guillouard. Le péage urbain, c'est-à-dire faire payer les automobiles pour les transports publics, est déjà utilisé à Londres pour financer une partie du métro, renflouée deux fois depuis le début de la crise. C'est ce qui devait aider aussi en 2021, celui de New York au bord de la faillite. Mais récemment, en France, c'est la gratuité qui est revenue dans le débat public après la proposition de la candidate PS au régional en Île-de-France, Audrey Poulvard, débat vif, au terme désormais bien connu, aux objectifs d'équité sociale, de report modal et donc de redynamisation urbaine. Eh bien, ces détracteurs opposent les obstacles du coût et de justice fiscale d'une telle mesure, faire compenser des millions d'euros de recettes perdues par d'éventuelles retombées économiques reste donc, Tiffaine, un pari risqué.
Et pour l'instant, la gratuité séduit surtout les villes moyennes ?
Oui, une trentaine l'expérimentent, question d'échelle peut-être, car avec des transports publics moins utilisés que dans les grandes villes, les budgets sont moins dépendants de la billetterie. Jusqu'ici d'ailleurs, seul le Luxembourg de 600 000 habitants est entièrement passé à la gratuité, mais certaines petites métropoles essayent aussi de nouveaux modes de transport collectif léger pour réduire les coûts, comme l'Urban Loop à Nancy, à mi-chemin en fait entre le métro et les montagnes russes, qui annonce un coût énergétique inférieur à 1 centime par kilomètre et 10 millions d'euros d'investissement seulement pour une métropole de 100 000 habitants.
En revanche, les villes moyennes pourraient être parmi les perdantes de la restructuration du transport aérien, Air France en premier lieu.
Oui, là, ce n'est pas exactement un transport public, mais l'État actionnaire principal du groupe Air France KLM à plus de 14% de part pousse l'avionneur en difficulté à augmenter sa rentabilité et réviser son rôle dans l'aménagement du territoire. C'est même la réalité du modèle économique qu'il faut revoir, disait Jean-Baptiste Djebbari. Le gouvernement avait ainsi conditionné son aide de 7 milliards d'euros à une restructuration du transporteur et surtout une réduction de 40% du réseau français qui élimine explicitement les villes moyennes à moins de 2h30 de train de Paris. D'ailleurs, la filière régionale et low-cost Hop est aussi menacée. Récemment, c'est le syndicat des pilotes de ligne qui a proposé un prix minimum pour les billets, comme c'est le cas depuis juillet en Autriche, ce qui serait donc la fin du modèle low-cost. Alors, sur terre, sous terre ou au-dessus, le monde d'après risque bien d'être aussi un monde de tubes vides d'humains. Et pour les transports en commun, Tiffaine, il reste donc à écrire les métamorphoses du Covid.
Merci beaucoup, Xavier Martinet, et merci à toute l'équipe d'Entendez vous l'écho, Marguerite Caton, Bruno Barada, Aliette Ouvine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique aujourd'hui, Laurie Vachon. Demain, direction les États-Unis pour une table ronde qui se portera sur l'économie américaine. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.